Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour accueillir les demandeurs d'asile, la ville d'Ottawa veut aller au-delà de l'urgence. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir. La ville d'Ottawa ne veut plus traiter l'accueil des demandeurs d'asile comme une urgence temporaire. Après s'être retrouvée prise de court par le nombre de réfugiés sans logis en 2023 et en 2024, elle investit aujourd'hui dans un modèle d'accueil plus humain et moins coûteux, des maisons de transition. En Ontario, comme partout ailleurs au Canada, sauf au Québec, il incombe aux villes de choisir comment elles veulent accueillir les demandeurs d'asile. Cette autonomie municipale donne lieu à des réponses très variables selon la volonté politique et les ressources locales. En 2023, la ville de Toronto avait fait les manchettes quand il avait été révélé que des demandeurs d'asile se retrouvaient contraints de dormir devant des refuges d'urgence trop pleins pour les accueillir adéquatement. Depuis, un centre d'accueil a été construit à proximité de la métropole ontarienne, imitant sensiblement le modèle québécois du programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, PREDA. Des lits réservés pour des demandeurs d'asile alignés les uns à côté des autres dans un bâtiment où sont aussi disponibles des services d'aide à l'intégration. Ottawa a vécu un scénario similaire. Les refuges d'urgence, conçus d'abord pour les personnes en situation d'itinérance, ont été rapidement dépassés. Entre 2023 et 2024, jusqu'à 70% des lits de la ville étaient occupés par des demandeurs d'asile, selon Kaylee Brennan, directrice générale de Matthew House Ottawa, un organisme qui leur vient en aide. Et ce n'est pas qu'une question de places disponibles. Selon les données de l'organisme, héberger une personne dans un refuge d'urgence coûte en moyenne entre 100 et 150 dollars par nuit, tout frais compris. Un tremplin. Consciente des coûts élevés et de la pression croissante sur le système d'hébergement, la ville d'Ottawa a choisi de ne pas élargir la capacité de ses refuges d'urgence. Plutôt que d'ajouter des lits dans un réseau déjà saturé, elle a misé sur un nouveau modèle d'accueil, des maisons de transition. Ces logements chaleureux, installés dans des quartiers résidentiels, accueillent des demandeurs d'asile le temps qu'ils trouvent un toit et entament leur démarche pour s'installer au pays. Conçues comme n'importe quelle autre habitation, ces 26 maisons sont divisées en deux catégories. D'abord, des maisons de réception dans lesquelles les demandeurs d'asile peuvent s'installer pour quelques mois et ont accès en tout temps à des ressources. Ensuite, des maisons de transition où ils sont relogés s'ils ne trouvent pas de logement abordable. Là, ils paient un loyer raisonnable et peuvent y rester pendant presque un an. Tout frais compris, ces logements coûtent à l'organisme 38 dollars par personne par nuit, soit moins du tiers du coût d'une nuit dans un refuge d'urgence. Leur utilisation évite du même coup de surcharger les refuges d'urgence qui restent réservés aux situations critiques. Le nombre de demandeurs d'asile ou de réfugiés hébergés à la mission d'Ottawa a considérablement diminué depuis 2024 pour tomber à moins de 20%. Souligne d'ailleurs cet organisme qui gère l'un des plus importants refuges de la capitale fédérale. Les résultats sont meilleurs quand on accueille les gens dans un endroit digne, humain, plutôt que de les entasser dans des refuges qui n'ont jamais été pensés pour eux, rappelle de son côté Mme Brennan. Pour évaluer l'incidence réelle de cette façon de faire, Matthew House Ottawa a récemment mené un sondage auprès de 400 anciens résidents de ces maisons d'accueil. L'équipe a multiplié les efforts afin de joindre un maximum de répondants, en les contactant par téléphone et dans leur langue. Au total, 100 personnes ont répondu au questionnaire. Parmi elles, 94% affirment ne jamais être retournées dans un refuge d'urgence après leur passage à Matthew House, un résultat que l'organisme juge extrêmement encourageant. On savait déjà que le modèle fonctionnait, mais maintenant, on en a la preuve chiffrée avec des indicateurs comme l'accès au logement à long terme ou l'intégration en emploi, souligne Kaylee Brennan. La méthode ottavienne, un modèle? Forte de ces résultats, Mme Brennan milite pour que l'expérience d'Ottawa alimente la réflexion fédérale. Elle a elle-même participé aux discussions entre Ottawa et les provinces visant à établir un modèle national d'hébergement pour les demandeurs d'asile. À titre de représentante de la Nouvelle-Écosse, elle a co-présidé un groupe de travail fédéral-provincial sur la question. Depuis un an, les gouvernements fédéral et provinciaux essaient de voir comment mettre en place un modèle national pour loger les demandeurs d'asile, explique-t-elle. Mais la mise en œuvre d'un tel modèle se heurte à de grandes inégalités régionales. Car si le Québec et l'Ontario accueillent la majorité des demandeurs d'asile, la plupart des autres provinces n'ont pas d'infrastructure nécessaire pour les recevoir. Dans ce contexte, Kaylee Brennan plaide pour que le gouvernement fédéral mise sur les modèles communautaires déjà en place. Regardez Matthew House, on est passé d'un petit projet à quelque chose de grand en très peu de temps. Et on sait vraiment ce qu'on fait. Ces ONG savent ce qu'elles font, elles le font bien, et elles le font depuis longtemps. c'était « Pour accueillir les demandeurs d'asile, la ville d'Ottawa veut aller au-delà de l'urgence », un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir.
Surabondance de catastrophes, de moins en moins naturelles, un texte de Alexandre Sirois, paru le 24 août dans la presse. Les brasiers dévastateurs se succèdent à une vitesse inquiétante, ici comme ailleurs. Dans l'actualité, un incendie chasse l'autre, littéralement. Celui qui a ravagé l'île de Maui à Hawaï figure en tête de liste des incendies qui ont marqué les esprits. Et le New Yorker vient tout juste de publier un examen instructif au sujet de ce qui s'est passé sur cette île naguère paradisiaque. La journaliste Elizabeth Colbert, qui est notamment l'auteur du remarquable livre « La sixième extinction », y rappelle que le gouverneur de l'État a qualifié le brasier de « plus importante catastrophe naturelle qu'Hawaï ait jamais connue ». Elle s'empresse ensuite de le corriger. Il serait plus juste, selon elle, de décrire les incendies comme une catastrophe qui n'a rien de naturel, « unnatural ». Parce que Lahaina, ville où plus de 850 personnes manquent toujours à l'appel, était naguère entourée de plantations de canne à sucre. Laissées à l'abandon à la fin du siècle dernier, elles ont été infestées par des herbes envahissantes qui deviennent hautement inflammables en période de sécheresse. Mais aussi parce que les changements climatiques liés aux activités humaines ont contribué à changer la donne. Les températures moyennes à Hawaï ont grimpé de 2 degrés depuis les années 1950, rapporte Elizabeth Colbert. Cela a rendu l'État plus propice aux incendies et, en même temps, a favorisé la propagation des types de plantes qui alimentent les incendies de forêt. Peut-être faudrait-il en effet, désormais, proscrire l'expression « catastrophe naturelle » pour parler des incendies de forêt et autres événements extrêmes. Mise en garde utile, on ne peut pas comparer les incendies de Maui à ceux qui frappent le Québec ou l'ouest du Canada et penser que les situations sont similaires en tout point. Au Québec, par exemple, les incendies dans la forêt boréale ne sont pas une anomalie. Ce qui est possiblement en train de changer, c'est leur ampleur. Pour le Canada au grand complet, on parle cette année d'environ 14 millions d'hectares de forêts brûlées, du jamais vu. Et peut-être aussi leur fréquence. L'avenir nous le dira. Je ne serais pas prêt à dire qu'on est dans une situation apocalyptique, mais si on a 10 ans avec une superficie brûlée comme en 2023, il va falloir penser qu'on est sorti de la variabilité naturelle, nous a dit Yves Bergeron, chercheur à l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ce qui semble clair, en revanche, c'est qu'à l'instar d'Hawaï, le Québec et le reste du Canada ressentent de plus en plus l'impact des changements climatiques sur la forêt. L'augmentation des températures liées au changement climatique, dont les causes principales sont liées aux activités humaines, provoquent des sécheresses potentiellement plus intenses. Celles-ci, pour leur part, font grimper le risque d'incendie. Sans compter qu'en raison des températures plus élevées, le nombre d'orages et d'éclairs, qui sont très souvent à la source des incendies de forêt, est aussi en hausse. C'est ce que faisait remarquer récemment dans nos pages l'expert Edward Struzik. Si la fréquence des incendies augmente, Ceux-ci sont susceptibles de perturber le renouvellement naturel de la forêt. C'est ce que les experts qualifient d'accident de régénération. Ça signifie que les arbres brûlent trop jeunes avant d'avoir eu le temps de produire les graines qui sont nécessaires pour régénérer la forêt après les incendies. Le phénomène peut aussi se manifester si le feu détruit une forêt dont les arbres ont été récoltés quelques années ou quelques décennies plus tôt. Les régions où l'épinette noire est en abondance sont particulièrement vulnérables car cet arbre a besoin d'au moins une trentaine d'années pour générer les graines viables qui vont lui permettre de se reproduire. Le directeur de l'Observatoire de recherche régionale sur la forêt boréale, Yann Boucher, nous a communiqué ses plus récentes estimations à ce sujet. Ses travaux indiquent qu'au moins 300 000 hectares de forêt au Québec se dirigent vers des accidents de régénération dans la foulée des incendies des derniers mois. Sachant qu'on replante autour de 50 000 hectares annuellement, le Québec a un gros chantier à prévoir, prévient-il, et des investissements majeurs à faire pour assurer le succès de ce projet urgent. Ce ne sera qu'un juste retour des choses. Si les activités humaines perturbent la régénération naturelle de la forêt, la seule réaction responsable dans les circonstances, c'est de réparer nos dégâts. C'était « Surabondance de catastrophes de moins en moins naturelles », un texte de Alexandre Sirois, paru le 24 août dans la presse.
L'assèchement du berceau de la civilisation, un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. Tous les écoliers apprennent ce mot, Mésopotamie, soit le croissant fertile, berceau de la civilisation. Aujourd'hui, une grande partie de cette terre est en train de tomber en poussière. Le mot lui-même, Mésopotamie, signifie la terre entre les rivières. C'est là que la roue a été inventée, que l'irrigation a prospéré et que le premier système d'écriture connu a vu le jour. Selon certains spécialistes, les rivières alimentaient les légendaires jardins suspendus de Babylone et convergeaient vers l'endroit décrit dans la Bible comme le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il reste si peu d'eau dans certains villages proches de l'Euphrate que les familles démontent leurs maisons, brique par brique, les empilent dans des camionnettes et s'en vont. Vous ne le croiriez pas si je vous le disais maintenant, mais c'est un endroit où il y avait de l'eau, a déclaré le cheikh Adnan al-Salani, professeur de sciences dans le sud de l'Irak, près de Nasiriya, à quelques kilomètres de la ville d'Ur de l'Ancien Testament, que la Bible décrit comme la ville natale du prophète Abraham. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau nulle part, a-t-il déclaré. Tous ceux qui restent souffrent d'une mort lente. Il n'est pas nécessaire de remonter au temps biblique pour trouver un Irak plus verdoyant. Jusqu'au XXe siècle, la ville méridionale de Bassora était surnommée la Venise de l'Orient en raison de ses canaux parcourus par des gondoles qui se faufilaient entre les quartiers résidentiels. En effet, pendant une grande partie de son histoire, le croissant fertile, souvent défini comme comprenant des parties de l'Irak, d'Israël, du Liban, de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran, de la Cisjordanie et de Gaza actuelle, n'a pas manqué d'eau, inspirant des siècles d'artistes et d'écrivains qui ont dépeint la région comme une terre antique luxuriante. Les inondations printanières étaient fréquentes et le riz, l'une des cultures les plus gourmandes en eau au monde, y a été cultivé pendant plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, près de 40% du territoire irakien a été envahi par des sables désertiques qui emportent chaque année des dizaines de milliers d'hectares de terres arables. Selon les scientifiques, le changement climatique et la désertification sont en cause. Il en va de même de la mauvaise gouvernance et de la dépendance continue à l'égard de techniques d'irrigation coûteuses qui remontent à des millénaires, à l'époque sumérienne. La lutte pour l'eau a également intensifié les pénuries d'eau dont souffrent des dizaines de millions de personnes dans la région. Un autre coupable est commun à de nombreuses régions du monde, une population croissante dont les besoins en eau ne cessent d'augmenter, à la fois en raison du nombre et, dans de nombreux endroits, de l'élévation du niveau de vie, ce qui accroît la consommation individuelle. En Irak, les retombées sont omniprésentes. La société s'effrite, des affrontements meurtriers éclatent entre les villages, des milliers de personnes sont déplacées chaque année, les extrémistes s'enhardissent et de plus en plus de terres ressemblent à un paysage lunaire stérile. L'épuisement et la pollution des rivières et des nappes phréatiques provoquent des épidémies de choléra, de typhoïde et d'hépatite A. Les sables du désert engloutissent les terres agricoles, forçant les gens à s'entasser dans les villes. Les rivières et les canaux sont descendus si bas que les militants du groupe État islamique les traversent facilement pour attaquer les villages et les avant-postes de sécurité. Des pisciculteurs ont fait des menaces aux autorités réglementaires qui ont tenté de les faire fermer pour avoir violé les restrictions d'eau. Le pays est même en train de changer de sous-sol. Dans de nombreuses régions, l'eau pompée sous la surface est trop salée pour être bue, conséquence de la raréfaction de l'eau, du ruissellement agricole et des déchets non traités. « Même mes vaches ne la boivent pas », a déclaré un agriculteur. Vous écoutez « L'assèchement du berceau de la civilisation », un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. Nous vivons aujourd'hui à la limite de la vie. Au reste du Moyen-Orient et à d'autres régions du monde, l'Irak et ses voisins lancent un avertissement sans équivoque. En raison de la situation de cette région, l'une des plus vulnérables de la planète, c'est l'un des premiers endroits où l'on observera une sorte de dépérissement extrême, littéralement, face au changement climatique, explique Charles Island, directeur de la sécurité de l'eau du World Resources Institute. L'eau des Irakiens est fournie par le gouvernement dans des barils en plastique rouge, à raison d'environ 600 litres par mois et par famille. Même utilisée avec parcimonie, elle dure à peine une semaine dans la chaleur, explique le cheikh Adnan al-Salani, qui vit dans le village d'Al-Boujouma. Dans les années 1970 et 1980, le ministère irakien de l'eau a créé des lacs artificiels et des barrages pour contenir les immenses crues annuelles dues aux pluies d'hiver et à la fonte des neiges dans les monts Taurus, où coulent le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui encore, des traces du passé plus vert de l'Irak sont visibles chaque printemps. Dans le désert d'Al-Anbar, une brève pluie d'hiver peut faire verdir les vallées peu profondes et les parsemer de fleurs. Le long du Tigre et de l'Euphrate, l'eau nourrit encore les arbres le long des rives étroites avec des bandes de champs verts de part et d'autre. Mais même ces bandes se sont réduites au cours des dernières décennies. Depuis 1974, la Turquie a construit 22 barrages, centrales hydroélectriques et projets d'irrigation sur le Tigre et l'Euphrate. Puis, au début des années 2000, l'Iran a commencé à construire plus d'une douzaine de petits barrages et de tunnels sur les affluents du Tigre, dévastant des provinces irakiennes comme la Diyala, qui était connue il y a seulement 10 ans pour ses pêches, ses abricots, ses oranges et ses dattes. Les affluents en provenance d'Iran sont la seule source d'eau de la province, en dehors des précipitations qui s'amenuisent. Les conséquences ont été dramatiques. Depuis le début de la construction de barrages dans les années 1970, l'eau qui s'écoule vers l'Irak a diminué de près de 50% dans l'Euphrate et d'environ un tiers dans le Tigre, d'après les statistiques du ministère irakien de l'eau. Hachem al-Kinani et sa famille ont ressenti ces changements de près. Pendant des générations, ils ont cultivé 8 hectares à l'est de Bagdad, à la frontière de la Diyala, affrontant une épreuve après l'autre. Tout d'abord, l'invasion américaine et l'éviction de Saddam Hussein ont entamé le soutien de l'État aux agriculteurs. Puis, en 2006, Al-Qaïda est entré dans le pays et a tué de nombreux hommes de la région, abandonnant leurs corps décapités dans les fossés. Hachem a perdu un oncle et la maison familiale a été bombardée par Al-Qaïda. Pour aggraver la situation, les précipitations sont devenues plus irrégulières et ont progressivement diminué. Avec la mise en service des barrages iraniens, l'eau des rivières est devenue trop rare pour cultiver des fruits. Selon les Nations Unies, les pays du monde entier se partagent près de 900 fleuves, lacs et aquifères. Bien qu'il existe un traité régissant leur utilisation, moins de la moitié des pays l'ont ratifié. Les pays en amont, comme la Turquie, l'Iran et la Chine, sont notablement absents de la liste. En 2021, le ministère irakien de l'eau a menacé de traîner l'Iran devant la Cour internationale de justice pour avoir capté son eau. Mais le gouvernement irakien, dominé par les chiites et proche des dirigeants de Téhéran, a abandonné la question. Aujourd'hui, l'eau qui coule dans l'est de l'Irak a été tellement réduite que les plaines inondables sont devenues des champs desséchés. Dans certaines régions, les rivières et les canaux d'irrigation sont devenus si faibles qu'ils diluent à peine les eaux usées qui s'y déversent. La croissance démographique de l'Irak a aggravé la situation. Alors que l'eau diminuait, la population a augmenté, passant d'environ 11,6 millions d'habitants en 1975 à plus de 44 millions aujourd'hui. Vous écoutez L'assèchement du berceau de la civilisation, un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. Les appels lancés à la Turquie pour qu'elle partage davantage d'eau sont restés largement lettre morte. Au cours de l'été 2022, au plus fort de la sécheresse de l'année dernière, l'ambassadeur de Turquie à Bagdad a répondu aux demandes d'eau de l'Irak en se plaignant que les Irakiens la dilapidaient, appelant le gouvernement irakien à adopter des mesures immédiates pour réduire le gaspillage. Cette année, à la suite d'une demande similaire, la Turquie a partagé l'eau pendant un mois avant de la réduire à nouveau. Il est primordial de remédier aux techniques agricoles désuètes de l'Irak, qui gaspille jusqu'à 70% de l'eau utilisée pour l'irrigation, selon une étude réalisée par le ministère irakien de l'eau. Mais persuader les agriculteurs de changer n'est pas chose aisée. Passer la zone urbanisée du nord de Nasiriyah, avec ses petits ateliers de réparation automobile et ses stands de légumes, les terres se vident. Des nuages d'orage s'amoncellent en fin d'après-midi, puis se dispersent sans verser une goutte d'eau. Des touffes d'herbes jaunes et brunes à la fin du mois de juin témoignent de la présence de cultures ici il n'y a pas si longtemps. Le vent se lève tôt chaque matin et souffle sans discontinuer jusqu'au crépuscule. Il arrache la couche arable, assèche la terre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poussière de terre qui s'accumule sur les dunes qui montent rapidement. À quelques kilomètres de l'autoroute, plus profondément dans le désert, se trouve Al-Najim, un village en voie d'être rayé de la carte. Il y a 30 ans, il comptait 5000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste que 80. La température atteint 50 degrés centigrades. Le cheikh Muhammad Adjil Falgous, chef de la tribu Najim, est né dans le village. La terre était bonne. « Le sol était bon », explique-t-il. Jusqu'au début des années 2000, les habitants cultivaient du blé et de l'orge, du maïs et du trèfle. Aujourd'hui, tout ce qui pousse, ce sont de petits groupes d'arbustes, des tamaris plantés comme un rempart contre les sables. « Nous vivons aujourd'hui à la limite de la vie », déclare le cheikh. « Il n'y a plus d'agriculture, plus de plantations possibles. C'est la fin de la ligne, la fin de la vie ». Nous attendons une solution de la part de Dieu ou de personnes de bonne volonté. C'était l'assèchement du berceau de la civilisation, un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times.
À chaque vague de chaleur, nos organes prennent un coup de vieux. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir. À chaque vague de chaleur, nos organes prennent un petit coup de vieux, selon une étude asiatique publiée fin août 2025 dans Nature Climate Change. Chez les personnes les plus exposées aux canicules, l'effet serait du même ordre que celui de la cigarette ou de l'alcool. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les données médicales d'une cohorte de 24 922 adultes récoltées entre 2008 et 2022 à Taïwan. Ils ont calculé l'évolution de l'âge biologique des participants grâce à différents paramètres de santé, comme la fonction pulmonaire et la pression sanguine. Durant la période considérée, Taïwan a connu une trentaine de vagues de chaleur. Selon leur lieu de résidence, tous les participants n'ont pas été aussi exposés aux canicules. Il s'avère que ceux qui ont davantage subi d'épisodes chauds ont vu leur vieillissement accélérer. En clair, une personne exposée à 4 journées supplémentaires de canicule sur une période de 2 ans a vu son âge biologique augmenter d'environ 9 jours. Les travailleurs manuels, qui passent plus de temps dehors, ont subi un effet plus fort, avec un bond de 33 jours de leur âge biologique. Cette accélération du vieillissement peut paraître modeste, mais elle est calculée sur seulement 2 ans de vie. Si l'exposition aux vagues de chaleur s'accumule pendant plusieurs décennies, l'effet sur la santé sera bien plus important, a déclaré Cui Guo, une autrice de l'étude, citée par The Guardian. Une surprise attendait les auteurs durant l'analyse. Durant la période de 15 ans, l'effet vieillissant des vagues de chaleur s'est amenuisé. Les scientifiques croient que cela démontre que la population taïwanaise s'est dotée de stratégies d'adaptation aux grandes chaleurs, où la climatisation joue vraisemblablement un rôle. Quant aux mécanismes biologiques qui accélèrent le vieillissement durant les canicules, il est encore inconnu. Les scientifiques suspectent un effet de la chaleur sur l'ADN, mais d'autres travaux seront nécessaires pour explorer cette piste. C'était « À chaque vague de chaleur », Nos organes prennent un coup de vieux. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir.